il est temps maintenant de donner la parole à François Tornet, directeur des affaires scientifiques chez l'Imagrin. Cher François, je vous remercie sincèrement d'avoir accepté notre invitation pour intervenir dans le cadre de cette deuxième keynote. Grâce à votre parcours professionnel, vous allez nous apporter un éclairage précieux sur les pratiques internationales en matière de recherche partenariale et vous nous présenterez les enjeux de cette collaboration pour un grand groupe du secteur agricole tel que l'Imagrin. Merci beaucoup et je vous donne la parole.
Merci Violette. Bonjour à tous. Bonjour à tous, chers collègues. Chère Clarisse, merci. Chère Violette, merci. Merci de cette opportunité de pouvoir adresser une assemblée aussi diverse qu'on a ici. Ben, ça ne va pas être facile, vu la qualité des échanges qu'on a eus, d'arriver vers la fin de la journée et de continuer à apporter quelque chose au débat, même si je pense qu'on peut toujours apporter quelque chose. Donc j'espère pouvoir vous garder avec moi pendant ces quelques minutes sur justement cet aspect au niveau de la, pas de la comparaison, mais de la recherche, la recherche collaborative au niveau national et international. Alors, avant de commencer... avant de commencer, je voudrais donner un petit peu de contexte à ce que je vais vous dire. Il m'a été demandé de parler de la recherche collaborative pour le groupe Imagrin et notamment des différences qu'il pouvait y avoir entre les collaborations qu'on mène dans le cadre français, j'allais dire, et ou dans le cadre US. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on me demande ça au niveau du cadre US. Je ne suis pas certain que ce que je vais vous raconter au niveau du cadre US soit toujours valable. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Donc, pour que vous puissiez situer quel est le contexte dans lequel je m'inscris ici, je vais donner quelques mots de mon parcours. Alors, j'ai une formation de rat de laboratoire, en fait. Je suis scientifique, je suis généticien de formation, j'ai fait ma thèse à l'INRA. Alors, pas une thèse chiffre, désolé. Mais bon, j'ai quand même fait ma thèse à l'INRA à l'issue d'un parcours qui est passé aux États-Unis, en Caroline du Nord. Donc, je suis revenu en France pour faire ma thèse à l'INRA. Je suis reparti aux États-Unis, au milieu de nulle part, dans l'Iowa, pour travailler pour une université américaine. Sur un sujet où je pense que je ne pouvais pas travailler dessus en France, puisque c'était les OGM. Je suis revenu, cette fois-ci dans le privé, dans le cadre du groupe Imagrin, dans un partenariat où il y avait 6 actionnaires, dont le groupe Imagrin. Donc je suis rentré en France, où j'ai travaillé donc, au sein du groupe pendant un moment, et puis on m'a demandé, toujours au sein du groupe, de repartir aux États-Unis, donc j'ai refait mes valises, pour monter une structure de recherche, un petit peu moins au milieu de nulle part, mais pas loin quand même dans l'Illinois, n'est-ce pas ? Voilà. Toujours sur les OGM. Récemment, en 2023, j'ai réintégré le groupe. L'Imagrin sur un poste qui lui est beaucoup plus transversal au niveau de l'activité de recherche. Donc je vais y revenir très très rapidement. Donc en fait, ce que je voulais vous montrer au travers de ça, c'est pas ce que j'ai fait, mais c'est ce qu'il y a dans le parcours entre les deux côtés de l'Atlantique et donc la possibilité de pouvoir alors comparer, oui quand même un petit peu, comparer ce qui peut se passer des deux côtés, apprendre des deux côtés. Il y a des bonnes choses des deux côtés. Et aussi vous montrer que j'ai moi aussi un parcours entre le public et le privé et qu'il y a des bonnes choses à prendre des deux côtés aussi, surtout quand on veut travailler ensemble. Pour continuer à dresser cette espèce de portrait, ce paysage mode impressionniste en ajoutant des touches de couleur, je voudrais vous... même si j'ai bien compris que... j'étais même un peu surpris que l'agronomie, l'agriculture, visiblement, dans l'audience, il y a du monde qui sait de quoi on parle, donc je vais peut-être aller un petit peu vite. Le groupe Imagrin, alors la plupart des gens, j'imagine, ne connaissent pas, donc c'est un groupe semencier, on est globalement quatrième mondial, on a un chiffre d'affaires de 2,5 milliards, Déjà, ce qui peut vous dire, c'est, ce qui peut vous montrer les choses, c'est qu'on a à peu près 700 millions qui viennent de partenariats stratégiques, donc collaboratifs. Pourquoi c'est important? Parce que l'essence même, alors je vais utiliser une expression que j'ai horreur d'utiliser en tant que généticien, mais je vais le faire quand même, l'ADN du groupe, c'est la collaboration. Pourquoi? Parce que nous sommes, par essence, une coopérative. À la base, c'est 1300 agriculteurs qui sont perdus au milieu du nulle part français, en l'Auvergne-Valtalier, qui se sont mis ensemble pour créer cette société semencière. Alors, il y a 60 ans, je suis désolé, on est un peu jeune, visiblement. Il n'y a que 60 ans, c'est cette année qu'on l'est faite. Qui ont investi ensemble pour l'innovation pour développer ce qui est devenu le groupe international Limagrain, comme vous le voyez. On est toujours très eurocentré, mais on a un beau développement aussi bien dans les Amériques qu'en Asie, et on est en train de monter en puissance sur l'Afrique. Donc, la recherche pour le groupe Limagrain, c'est très important. C'est très important. On a plus de 300 millions d'euros annuels consacrés à la recherche. Donc, ça fait 15% bon an, mal an du chiffre d'affaires qui est investi dans la recherche. Alors, en fonction des secteurs, ça peut paraître beaucoup ou pas beaucoup. Mais pour nous, c'est vraiment au centre de ce qu'on fait. On est obligé de faire ça. Et on le fait avec plaisir, pour amener sur le marché et auprès de nos clients des nouvelles variétés qui sont mieux adaptées à leur système de culture et aux demandes de leur marché à eux. Donc ça, c'est très important. On a à peu près 10 000 salariés, dont 2 000 en recherche. Donc vous voyez aussi que la proportion, c'est vraiment la recherche chez nous, c'est très important. Alors, là, je ne vais pas assez vite parce que je pense que les gens sont familiers avec ça et je pense que beaucoup de gens peuvent s'y retrouver. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le secteur agricole, ça bouge beaucoup, mais ça bouge sur le temps long. Il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Vous plantez une graine de maïs, vous pouvez toujours lui hurler dessus ou lui mettre du Mozart. Elle poussera quand elle a envie de pousser et à son rythme. Donc, on est tributaire des rythmes biologiques et quelque part, pour développer une variété, donc c'est ce qu'on met dans le champ, il faut entre 8 et 10 ans en fonction des espèces. Donc, sur le groupe Limagrain, on travaille sur une grosse cinquantaine d'espèces. C'est un énorme portfolio. C'est très compliqué. Ça va de choses un petit peu obscures, comme j'ai découvert qu'on avait des programmes de breeding de l'okra en Inde. Mais on travaille aussi sur le maïs ou sur le blé ou des espèces de grandes cultures. On a un environnement qui est en constante évolution. Et je pense qu'ici, dans la salle, on peut tous se retrouver là-dedans, même si, quand on dit environnement, on ne parle pas forcément des mêmes choses. Au niveau environnement, nous, ce qui nous tombe dessus, c'est le climat et le changement climatique. Et nous tombons dessus de façon différenciée en fonction des géographies. D'accord ? Donc ça, c'est très important à comprendre. Donc on est obligé de développer des choses sûres qui s'inscrivent dans le long terme pour des futurs où on ne voit pas toujours trop où ça va. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va varier beaucoup. On a aussi une forte évolution des conditions réglementaires. Alors ça, c'est vrai que l'administration se fait un plaisir de changer les choses, et un peu partout dans le monde, hein, toutes les administrations presque se ressemblent. ça évolue énormément. Et bien sûr, la géopolitique qui a une forte prégnance sur nos activités agricoles. Les technologies aussi évoluent très vite. Les biotechnologies évoluent très vite. Et vous voyez qu'on est dans un temps long de développement de variétés, et que nous, on est obligé de se poser la question, et je pense que beaucoup d'entre vous, c'est la même chose, c'est est-ce qu'on va sur cette technologie-là, oui ou non, on ne la maîtrise pas, on ne la connaît pas bien, c'est tout neuf, est-ce qu'on y va, parce que est-ce que ça va être accepté ? L'exemple des OGM, c'est quelque chose d'évident, mais actuellement, on a le sujet des NGT, l'édition du génome, d'accord ? On y va, tout le monde y va, mais la Commission européenne, enfin, les institutions européennes font un pas en avant, deux pas en arrière. Donc, voilà. Donc on ne sait pas trop ce qu'on va pouvoir en faire, concrètement, même si scientifiquement, on sait ce qu'on pourrait en faire et ce que ça pourrait apporter. Donc, il nous faut absolument anticiper et garder les portes ouvertes. Alors, tout ça pour dire que la collaboration, notamment la collaboration avec le public, est quelque chose d'absolument fondamental pour nous. C'est fondamental. Pourquoi? Parce que, alors, j'ai pas voulu vous mettre un inventaire à la Prévert de tout ce qu'on allait retrouver au travers d'une collaboration. Donc, j'ai juste extrait deux, trois choses. Pour nous, ce qui est important en tant que privé, c'est d'avoir accès à des connaissances fondamentales et des connaissances de pointe. On est dans le temps long, on est obligé d'investir sur quelque chose qui va se dérouler dans 15 ans, 20 ans, même des fois 30 ans. Et on a un programme de breeding sur les arbres. Donc on est obligé vraiment de voir loin. D'accord ? On est obligé d'avoir accès à des connaissances qui sont extrêmement pointues. On n'a pas toujours les moyens de développer ces connaissances extrêmement pointues en interne. D'accord ? Et donc ça, c'est lié aussi à nos ressources, nos ressources limitées. Même si il y a des bons chiffres d'affaires, tout ça, mais enfin, quelque part, ça reste quand même une enveloppe finie. Et donc, on va chercher tout ça au travers des collaborations publiques-privées. D'accord ? Pour le public, nous, ce qu'on pense qu'on peut amener, alors je viens de parler de l'argent en disant qu'on avait une enveloppe finie, mais bon, on amène quand même une aide financière sur un certain nombre de choses. On amène aussi un chemin vers le marché. C'est très important de garder ça en tête parce que souvent, j'entends beaucoup parler d'innovation ici. Et moi, je fais un distinguo entre l'invention et l'innovation. L'invention, c'est un joli truc nouveau. L'innovation, c'est un joli truc nouveau qui arrive à faire des sous sur le marché. Une invention qui reste coincée dans un laboratoire, ben, c'est jamais qu'une invention qui va rester prendre la poussière quelque part jusqu'à ce que quelqu'un d'autre, le MIT, je ne sais plus où était l'exemple, ressorte le truc du placard et se l'approprie. D'accord ? Donc, je fais vraiment un distinguo entre les deux. Donc, amener le chemin vers marché, c'est très important. On pense que c'est vraiment une valeur ajoutée de l'entreprise. Donc, c'est transformer les inventions en innovation. Et puis, bien sûr, ça permet au secteur public d'avoir un impact un peu plus direct, clairement, sur les concitoyens, puisqu'on va arriver sur le marché. Alors là, je voudrais m'arrêter là-dessus, parce qu'on a beaucoup parlé, et avec beaucoup de qualité dans les échanges, sur les collaborations et les collaborations réussies. Pour nous, dans le groupe Limagrain, la collaboration, elle naît, et je crois que l'expression a été employée, elle naît souvent d'une approche bottom-up. Ce sont nos chercheurs, nos experts internes, qui ont leur propre network, leur propre réseau, il faut que je parle en français, leur propre réseau dans le secteur public. Les gens se connaissent, on a une base de confiance qui est là. Et souvent, les collaborations commencent comme ça. Non seulement elles commencent comme ça, mais elles se pérennisent comme ça. Donc ça, c'est vraiment... Vous voyez, le niveau de l'humain dans l'établissement des collaborations est vraiment capital. Après, c'est... Je vais encore utiliser un anglicisme. « When there's a will, there's a way ». Donc, quand on veut vraiment y arriver, on peut y arriver. Ouais, des fois, ce n'est pas très facile, mais on peut y arriver. Mais ça commence par une volonté commune, dans l'intention de collaborer, avec un pourquoi, c'est-à-dire une raison de collaborer, qui est clair. Et quand je dis qu'il est clair, il n'est pas forcément le même pour le laboratoire public que pour nous en tant qu'entreprise. Ce n'est pas grave. Ça n'a pas besoin d'être le même. L'important, c'est qu'on soit dans une situation de win-win. D'accord ? Et je viens là-dessus, je vais prendre un exemple, on parlait des publications. Dans l'écrasante majorité des collaborations que nous, on a pu mettre en place, c'est un non-sujet. On sait que quand on va collaborer avec le public, ils ont besoin de publier. Donc le deal, c'est, si c'est super important, on protège d'abord, et vous publiez ensuite. Voilà. Et la publication, elle arrive quand même. Donc c'est pour ça que c'est un non-sujet. Ils le savent. Nos collègues du public le savent. Ils peuvent venir chez nous, ils vont sortir leur publication. D'accord ? Donc le pourquoi de la collaboration, il est capital. Si on n'a pas une bonne compréhension de ce qu'attend l'autre, ça plante. D'accord ? Donc on parlait de partager les roadmaps, on parlait de partager les approches stratégiques. En fait, c'est capital. En tant qu'entreprise, on a tendance à ne pas vouloir tout partager parce qu'on se dit « Mon Dieu, c'est tout confidentiel, je laisse mon mouchoir dessus et surtout, il ne faut pas qu'il voit. » Ce n'est pas un bon calcul, je pense. En tous les cas, nous, ce n'est pas comme ça qu'on pratique. Il faut être clair sur l'intention, il faut être clair sur là où on veut aller. Je vais vous donner deux exemples. Un qui a marché et un qui n'a pas marché, évidemment. Un exemple, celui qui a marché, je l'ai pris sur une collaboration française, parce que, voilà. On a collaboré avec une UMR sur, donc basée à Lyon, à l'ENS de Lyon. Et on a collaboré sur un principe biologique de reproduction du maïs. Bon, passons, je ne vais pas rentrer dans le détail, on s'en fiche. L'UMR, eux, ils essayaient de comprendre la biologie de la reproduction du maïs. C'est ça qui les intéressait. C'est d'essayer de disséquer le truc, c'est comment ça marche. Il y a un truc bizarre qui se passe, c'est comment ça marche. Et nous, ce qu'on essayait de faire, c'est que ce phénomène-là, on essayait de mieux le comprendre pour mieux le canaliser, parce qu'on commençait à arriver à l'utiliser pour des applications industrielles, qui est de la production de semences, mais on ne comprenait pas ce qui se passait. Et c'était un caractère qu'on appelle la pénétrance incomplète. Donc, je vous laisse. Voilà. Disons que ça ne marchait pas à tous les coups. D'accord ? Donc, il fallait qu'on comprenne pourquoi. Et au final, qu'est-ce qu'il en est sorti ? Une compréhension des gènes causaux du phénomène, une mise en place, nous, dans nos programmes, de ces gènes-là pour pouvoir améliorer notre process, et les collègues du public, ils ont eu une super publication dans Science. Tout le monde est content. D'accord ? Et le gène est protégé, oui, oui. Donc, voilà. Et c'est une copropriété. Voilà, soyons clairs. On était clair, on savait que eux, ce qu'ils voulaient, c'était comprendre comment ça marchait, et eux, ils étaient clairs sur le fait que ben, nous, ce qu'on voulait, c'était l'utiliser. C'était très clair. Je vais vous prendre un autre exemple qui n'a pas marché, et je vais le prendre de l'autre côté de l'Atlantique, parce que voilà. Et je ne vais pas le prendre aux États-Unis, je vais le prendre au Brésil. On a essayé de monter une collaboration avec l'INRA local qui s'appelle l'EMRAPA. Et on a commencé, comme je vous le racontais tout à l'heure, ça commence toujours bottom-up chez nous, hein, par une connaissance où on cherchait des principes actifs pour des OGM. Voilà. Et donc, on a commencé à échanger et ça allait très bien. On a négocié pendant, parce que c'est le Brésil, donc on a négocié pendant 3 ans quand même, pour à la fin se rendre compte que dans l'institut brésilien, les gens avec qui on discutait, ils avaient un intérêt de recherche que nous, on essayait de nourrir par rapport aussi à nous, notre intérêt industriel, mais que derrière eux, leur administration avait une volonté de commercialisation, où là, pour le coup, on était concurrents. On s'en est rendu compte que très tard. Et vous vous doutez bien que ça n'a pas marché. D'accord ? Tout simplement parce qu'on n'était pas clair sur nos intentions au départ. Donc le pourquoi, il est capital. Les modalités de collaboration, le comment on collabore, et ça c'est aussi très très important. Alors, on a parlé de différentes typologies de collaboration juste avant, pendant la table ronde. Il y en a une sur laquelle je voudrais prendre des exemples et faire une comparaison entre ce qui se passe en France et ce qui se passe aux États-Unis. Une des typologies de collaboration, c'est la prestation de services. On n'en parle pas assez. Et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas assez ? Parce que souvent, le public, ben c'est sale, la prestation de service. C'est on va toucher de l'argent pour un truc qu'on fait. Bon. Et on a réellement des freins d'adoption de ce type de prestation, de collaboration, parce que c'est souvent à la base d'une collaboration, à la naissance d'une collaboration, un embryon de collaboration sur le plus long terme. On a des freins, j'allais dire, presque d'état d'esprit, enfin de mindset, quoi. Aux États-Unis, j'ai jamais rencontré ce problème. Je l'ai vécu de l'intérieur du public. J'ai été responsable pendant quelques temps de la plateforme de service de l'Iowa State University pour la transformation du soja. L'université avait un service où les privés pouvaient venir, comme les publics, pour recevoir ce service-là. D'accord ? Et le prix que payait le privé était 5 fois plus cher que ce que payait le public. Et les prix, ils étaient affichés sur Internet. C'était très clair, il n'y avait pas de problème. Le deal, il était fait. D'accord ? Les universités aux États-Unis, elles ont ces plateformes de services. On peut y aller, il n'y a pas de problème. Et on sait à quoi s'en tenir. Et on sait à quoi s'en tenir sur l'IP des résultats. Et au contraire, ces laboratoires-là qui sont des prestations de services, qui offrent des prestations de services, ils sont aussi jugés sur la quantité d'argent qu'ils font rentrer. Donc, quand on parle de... Je ne sais plus qui c'est qui parlait de tenure, Bah, ça en faisait partie. C'est cette capacité à ramener du financement au sein de l'université. Et je sais que j'ai compris qu'il y avait une espèce de frein en se disant on n'a peut-être pas besoin d'aller jusqu'à la tenure. Bah, et pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aller jusqu'à la tenure en France aussi, hein, avec un système dans ce goût-là, en prenant en compte la capacité de faire des deals ? C'est valorisable. Les brevets, si vous faites partie d'un brevet et que vous êtes dans le public, ça devrait pouvoir compter comme une publication. C'est quoi le problème ? Donc, bon, il y a des choses à voir. Mais je voulais parler de ça sur la typologie, et vous voyez bien le parallèle qu'il peut y avoir entre les US et la France là-dessus. C'est encore une histoire, je pense, d'état d'esprit. Hein. Bon, on est d'accord, on ne va pas refaire le parallèle entre le latin et l'anglo-saxon. Mais ça montre quand même qu'il y a des choses à faire. Oui, d'accord, on est dans une culture particulière. Oui, d'accord. Au bout d'un moment, on a besoin d'avancer quand même. Hein. Donc, un autre point qui est important sur le comment on collabore, là j'ai parlé de la prestation de service, je voudrais revenir sur quelque chose qui est important, et on en a parlé quelques fois aujourd'hui, c'est les contrats cadres. Je reviens sur la France. Moi j'ai eu la joie et le privilège, quand je suis arrivé dans mon nouveau poste, de finaliser le renouvellement du contrat cadre avec nos amis de l'INRA. Super. Pourquoi super ? Parce que toutes les conditions contractuels sont prédéterminés. Et nos équipes, quand je vous parlais du bottom-up tout à l'heure, nos équipes peuvent aller voir leurs collègues de l'INRA, dire « Ah ben ouais, tiens, on a envie de faire ça ensemble parce que c'est important, on est sur une approche stratégique importante pour nous, des deux côtés. » Eh bien, ils ont déjà 90% du boulot qui est fait. Ils n'ont pas à se préoccuper du cadre. C'est vraiment quelque chose qui met de l'huile dans les rouages. Moi, je ne peux qu'encourager ce genre de choses. Vraiment, ça met de l'huile dans les rouages. Ça permet aux scientifiques de concentrer leur jus de cerveau sur la science et pas sur comment est-ce que je monte mon système. Ça aussi permet d'éviter d'avoir des juristes enfermés dans une pièce sans cornac. Ça, c'est pas à faire. Clairement, je pense qu'on en a tous discuté de ce truc-là. Juste pas une bonne idée. Je voudrais continuer sur ce que l'on fait, c'est là où souvent ça bloque. C'est qu'est-ce qu'on fait avec les conditions contractuelles, temporelles et financières. Franchement, c'est une négociation. Ouais, ok, bah, c'est une négociation. Ça se fait. When there's a will, there's a way. Encore. On y arrive. C'est pas la mort. C'est plus facile parce que plus pragmatique aux US. Franchement, c'est plus facile parce qu'ils sont straight to the point. D'accord ? Là, c'est un petit peu... déjà, il faut trouver le bon guichet. À qui est-ce qu'on parle ? Je parlais d'une UMR tout à l'heure. Quand vous vouliez, maintenant ça s'améliore. Mais quand vous vouliez collaborer avec une UMR, vous voulez collaborer avec une UMR INRA, où il y a un gars du CNRS qui bosse dedans et qui couche chez le copain qui est CIRAD, on s'arrache les cheveux. Bon, maintenant, c'est plus simple. Il y a un organisme de tutelle de lead. Et c'est très bien. C'est bien qu'on en ait pris conscience. Donc, il ne faut pas cracher dans la soupe. On avance. Et on avance dans le bon sens. D'accord ? Cette simplification, elle est absolument nécessaire. Ce n'est pas des freins qu'on rencontre quand on est aux US, ce genre de trucs. Hein. Le contrat, évidemment, c'est un passage obligé. Savoir si on négocie tout l'IP avant ou à la fin. Honnêtement, chez nous, dans le portfolio, il y a les deux. Et c'est essentiellement basé sur le niveau de TRL de quoi on est en train de parler. Si c'est quelque chose qui est super amont, franchement, on met les grands principes et puis on n'en parle plus. D'accord ? Si c'est quelque chose qui a vraiment une application un peu plus directe, là, il vaut mieux se diviser à la maison avant qu'il y ait un divorce et avoir un contrat clair. Donc, on a les deux, et les deux se font. Je voudrais remettre un peu de positif dans le système. C'est-à-dire, oui, c'est compliqué. Oui, chez nous, il y a une couche à 1000 feuilles administratives juste démentielles, mais on arrive à le faire. D'accord ? Encore une fois, pour nous, ce qui est important, c'est que les collaborations soient alignées sur notre besoin stratégique. Là, je vais redevenir un petit peu nombriliste par rapport à l'entreprise. Qu'est-ce qu'on cherche, encore une fois? C'est l'accès aux dernières recherches sur nos thèmes d'intérêt. Donc, bon, pour nous, je vous en ai mis quelques-uns ici, hein, c'est les maladies, les résistances au stress biotique, les approches système en agronomie, enfin, ce genre de choses. C'est l'accès aux données. Ça, c'est très important. Tout à l'heure, je vous disais, le climat, le changement climatique, ça, on ne sait pas trop où on va. Souvent, le public a une capacité à générer de la donnée là-dessus pour pouvoir avoir des modèles. C'est absolument génial. Nous, on ne peut pas faire ça. D'accord ? On fait partie d'un contrat, d'un projet collaboratif en Auvergne qui s'appelle Agriora 2050, un projet Tetrae, où ils sont en train de mapper jusqu'en 2050 l'évolution du climat en Auvergne à une échelle, je crois que la taille du pixel, c'est 250 mètres. Donc, super, super. Ça nous permet de prédire comment est-ce qu'on va pouvoir développer. Ça a un impact direct sur nos programmes de sélection. Ça nous permet de maintenir, je reviens à ça, sur un réseau d'experts. Un réseau d'experts, parce qu'une collaboration, c'est bien, c'est contractualisé, ça a une fin. Mais le réseau, vous l'avez. Une fois, et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, le gars avec qui vous avez collaboré pendant 5 ans, à la fin de la collaboration, il est toujours là. Hein. Et nous, c'est pareil. Hein. Donc, on se contacte en dehors des collaborations. C'est l'humain, encore une fois, qu'on remet ici. D'accord ? Et oui, on répond aux questions les uns les autres sans avoir forcément un papier signé. Hein. Même en dehors de la collaboration. C'est l'humain. C'est la confiance. Alors, ça devient un peu plus compliqué au niveau de la confiance quand on commence à être plus que deux pour danser le tango. Les consortias de recherche, on a des éléphants, toute une armée de personnes qui sont dedans. Ça marche aussi. Nous, on a plein de contrats, et j'imagine que pour vous, c'est la même chose, où vous avez des mix entre le public et toute une partie de vos compétiteurs, en fin de compte, qui sont là sur des domaines précompétitifs. Ça existe aussi, et ça marche très bien. Et je trouve, franchement, que je le vois plus souvent en France que ce que je n'ai vu aux États-Unis. D'accord ? Où c'est beaucoup plus fermé, dans mon expérience, et sur le système, sur l'industrie sur laquelle on est. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est fort chez nous, et ça, c'est très bien. Les effets de levier financier, bien sûr, l'accès aux dernières technologies, et pour nous, c'est capital, un accès et une surveillance aux ressources génétiques. On a besoin d'amener de la nouveauté dans les variétés qui arrivent sur le marché. Cette variété, elle existe, dans la plupart des cas, elle existe déjà dans la nature, on est obligé d'aller la chercher. Et qui c'est qui manage ? Qui c'est qui gère les ressources génétiques ? C'est le public, hein. Partout dans le monde, hein. Je ne suis pas en train de parler que de la France. Hein. C'est le public, hein. Donc c'est capital de maintenir des collaborations sur des aspects aussi amont que ça. Oui, on paye sur l'avenir, là. C'est des collaborations sur l'avenir. Le return on investment là-dessus, il est certainement calculable si vous demandez à des financiers, mais il est très loin. Mais si on ne fait pas ça, eh ben on n'avance pas. On le sait, et c'est sur une échelle de temps à 15-20 ans. Donc ça fait partie de la stratégie générale. Je ne sais pas comment au niveau temps, je ne sais pas combien il me reste, parce que... Oui, ok, d'accord. Ok, il faut me faire signe. Pour moi, je vais terminer peut-être sur... Pas exactement sur cette slide-là. Je vais la passer ici parce que c'était mon commentaire sur les aspects US. Et les aspects US, j'ai mis le under construction, ou je vais plutôt dire le under deconstruction, parce que pour l'instant, on ne sait pas où ça va. Hein. Ils ont des points forts, mais aujourd'hui, on en a un stade où moi, j'ai des collègues dans le public américain qui m'appellent, qui me disent « Waouh, François, j'ai plus de bureau et j'ai plus de mail. » Je suis arrivé ce matin au bureau, j'ai plus ça. Parenthèse fermée, désolé, j'ai fait une petite incise pour les copains aux US, mais c'est dur. Je pense qu'on a... J'ai essayé de vous montrer qu'on pouvait faire les choses ensemble. Franchement, je voudrais que vous vous reteniez aujourd'hui de ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on peut faire les choses, ça marche. Est-ce que ça peut marcher mieux ? Oui. Non, mais clairement. Moi... Personnellement, le millefeuille administratif, on parlait des projets européens tout à l'heure. Je vais être très honnête. Moi, j'y vais pas. Hein. J'y vais pas, hein, parce qu'il me faut un ETP complet pour gérer le truc. Hein. Alors, j'ai bien entendu, effectivement, le CNRS, voilà, vous disiez, bah, oui, voilà, on était à je ne sais plus combien d'ingénieurs projets, là, on a multiplié par 10 le taux d'ingénieurs. Et peut-être qu'une autre option, ce serait de simplifier le système plutôt que d'embaucher des gens pour gérer un système compliqué. Bon, je dis ça, je dis rien. Mais mais l'Europe, simplifier, c'est compliqué. Mais voilà, ça vous donne un exemple de frein. Enfin, concrètement, c'est ça que ça veut dire. C'est que moi, il y a une complexité à gérer le projet qui est. C'est un deterrent, comme on dit. Enfin, non. Ce qu'on a aussi, et je voudrais le dire ici, c'est que quand moi je suis arrivé des États-Unis et que je suis arrivé en France, d'abord j'ai réalisé que je n'avais pas pris acronyme deuxième langue, donc je ne comprenais pas de quoi on parlait, la plupart du temps. Et qu'il y avait une galaxie de guichets et de possibilités. Honnêtement, quand je suis rentré, j'aurais aimé qu'on me donne un sextant pour pouvoir me repérer, pour savoir où est-ce qu'il est. Franchement, c'est. Je vais le dire clairement, c'est incompréhensible. C'est illisible. Donc, ce n'est pas la première fois que je porte le message, j'ai eu l'occasion de m'en exprimer au niveau des journées des Carnot, c'est illisible. Donc, chacun fait son petit truc dans son petit coin à son niveau. OK, et ça fait plein de possibilités. C'est une mer de possibilités. Super. Mais c'est innavigable. Enfin, nous, on a quelqu'un qui est payé pour naviguer ça quand même, hein. Par contre, il y a des systèmes qui sont simples. Il y a des systèmes qui sont simples pour valoriser la recherche et des systèmes qui sont actuellement sur la sellette. Le crédit impôt recherche, c'est simple. On est en train de taper dessus, mais c'est quelque chose de simple pour augmenter. Là, on a un levier pour augmenter la part de recherche du privé dans ce qu'on fait en France. D'accord? Pourcentage du PIB, là. OK? Là, on a un levier. Non, mais c'est bien, tapons dessus. Je parlais de la complexité, de rationaliser les organisations. Je vais être honnête, c'est facile de taper sur la complexité administrative au niveau public. Honnêtement, si je me regarde dans le miroir, je n'ai pas forcément un interlocuteur unique non plus. Il faut toujours mobiliser je ne sais pas trop combien d'équipes pour arriver à une décision. On est compliqué, nous aussi, à l'intérieur, dans les entreprises. D'accord? Il faut être franc. Donc voilà. Mais je pense et je crois, et au travers notamment des subventions, par exemple, qu'on peut favoriser ces synergies entre le public et le privé pour s'orienter sur des grands axes stratégiques. On a les moyens en tant que nation, je ne dis pas on, l'immigrant, c'est on a les moyens en tant que nation de se positionner et d'orienter ce qu'on fait de façon forte. En encourageant le partenariat et la collaboration, mais bon sang, mais faisons-le de façon plus claire au moins. Parce que je suis sûr qu'on a l'impression qu'on fera faire un satisfecit en disant qu'on le fait. Faisons-le de façon efficace. Voilà, donc c'est ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est de la positivité, moi en tant qu'industriel, de la positivité dans les collaborat dans la recherche collaborative avec le public. Vraiment, ça peut fonctionner, c'est nécessaire, ça marche. Pas si mal que ça, c'est perfectible, absolument, c'est perfectible. Et c'est pour ça que je pense que les actions de suite de cette journée vont être très importantes. Je vous remercie. J'ai explosé vos 2 minutes, pardon.